théorie de la défense et de la déviance. Beaucoup travaillé les deux dernières fois sur les théories qu'on appellera culturalisme, hein, c'est-à-dire toutes les théories de la sous-culture qui est appelée par certains sous-culture délinquante. On va voir maintenant quelques critiques qui ont été adressées à cette théorie, quelques précisions. Et en particulier, en ce qui concerne les milieux populaires. Un des auteurs essentiels sur cette critique d'un philosophe américain extrêmement célèbre, auteur classique, qui est maintenant un vieux monsieur charmant qui a longtemps présidé aux destinées de la philosophie américaine et qui continue à faire pas mal de choses. Pour Balzac, la première critique, ce serait que ne faut pas confondre une sous-culture de la délinquance et une sous-culture délinquante. C'est-à-dire que même si il y a délinquance dans des groupes organisés, sur le plan social global, et en particulier dans les classes populaires, la délinquance n'est que très rarement prônée comme un modèle. Simple, vous avez vu Le Parrain, je suppose, avec Brando. Bon, les valeurs qui sont prônées par la mafia, donc, sont des valeurs d'honneur. Ce sont des valeurs d'honnêteté dans l'entre-soi, pseudo-familial. Mais la délinquance elle-même est instrumentalisée avec des valeurs qui ne sont pas les valeurs de la délinquance. Donc il peut y avoir une sous-culture de la délinquance qui prône des valeurs d'honneur à l'intérieur du groupe, mais ce n'est pas une sous-culture délinquante. C'est-à-dire que la délinquance n'est pas prônée comme étant la valeur essentielle. C'est la critique de Balzac. Balzac va aussi dire que c'est quelque chose de beaucoup trop englobant de parler d'une sous-culture délinquante. Plutôt de sous-culture d'opposition, qui correspondent à l'élaboration d'un système de valeurs anticonformiste revendiqué. Dans ces sous-cultures d'opposition, on peut avoir des sous-cultures qui n'ont rien à voir avec la délinquance. Même avoir une expression politique. Alors bien sûr, Balzac a écrit ça dans les années 60, on est à la sortie du McCarthyisme aux États-Unis, et il pense en particulier au problème du communisme. Le Parti communiste, qui est considéré, il ne faut pas l'oublier, sous McCarthy comme purement et simplement la délinquance, hein, la chasse aux sorcières, bon, mais qui est une expression politique malgré tout légitime. Je pense aussi, bien sûr, à des fonds artistiques en Inde, même si circule un peu la fumée, qui ne sont pas forcément des mouvements délinquants. À ces sous-cultures d'opposition correspond aussi une sous-culture de la délinquance qui en serait une des formes mais où la conduite délinquante donc n'est pas assumée comme une délinquance même par le groupe. Je suis moins sûr que lui, mais je présente son modèle. Pour lui, et c'est bon, effectivement, à sa fin, le groupe délinquant ne prescrit pas la délinquance comme valeur. Mais cette sous-culture définit des circonstances atténuantes qui justifient d'y avoir recours. Bon, si vous voulez, on prend quelque chose de très simple, comme la dépouille, par exemple. Bon, je vous dis que vous en passez un petit peu. C'est une circonstance atténuante sous un prétexte de déclasse. Même si en l'occurrence le bouton de piqué n'est pas piqué un petit peu. Et vous avez souvent, si vous connaissez un petit peu les adolescents de groupe plus ou moins délinquant, ce type de raisonnement, c'est-à-dire qu'on va assimiler l'autre qu'on agresse à une catégorie infamante. Même s'il n'en fait pas partie. D'ailleurs, bon, c'était un terme qui avait été employé par Christian Bachmann pour le sociologue de la question des violences urbaines, qui parlait lui de haine de proximité. C'est-à-dire donc rappeler que quoi qu'il en soit, et quoi qu'en soit ses justifications, c'est d'abord. Je dirais, du dominé contre le dominé, qu'il y a violence. C'est-à-dire que bon, même s'il peut y avoir des opérations de razzia plus importantes vers des quartiers plus fliqués, généralement c'est beaucoup plus dangereux et il y a moins ce type d'événements. Donc c'est plutôt dans le même établissement ou dans le même quartier que se passe autour des gosses qui subissent la même domination, ces phénomènes de violence par exemple. Ça encore, un des problèmes des théories culturalistes, c'est qu'elles sacralisent trop les normes dominantes. Comme si elles étaient tellement fixées, tellement connues. Il y avait un seuil précis lorsqu'il y avait transgression. C'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté les normaux, si vous voulez, et de l'autre côté les déviants. dans une vraie séparation. Si vous voulez, ce qui serait les honnêtes gens et de l'autre côté les hors-la-loi. Pour Metza, rien ne fixe définitivement l'individu dans un état, dans un être même, on pourrait dire, de déviant. L'individu est au contraire en même temps dans une espèce de dérive déviante et soumis aux pressions de la normalité. Il n'est pas dans une pure folie. Si on se rappelle ce que je disais dans les premiers cours, là, ce modèle-là essaie de montrer qu'on n'est pas un délinquant, point. Ce n'est pas tout d'un traître. On est, par certains côtés, soumis à certaines lois, par d'autres côtés, on est dans le flottement, dans l'incertitude, dans des adhésions à certaines valeurs ou contre-valeurs, mais qui peuvent laisser quand même aussi adhérer à des valeurs contradictoires. Bon. Si vous voulez, on pourrait faire le parallèle avec Freud. Vous vous rappelez ce qu'a été l'apport du. Les grands apports du freudisme, ça a été de montrer qu'il n'y avait pas de distinction claire, aussi claire que ça, entre la normalité et l'anormalité. Que c'était presque des différences, peut-être, d'état pour y avoir, mais où, quoi qu'il en soit, on était tous pétris d'inconscient et que, d'une certaine manière, un état psychologique totalement sain est un leurre. C'est un peu la même chose. Il y a l'idée donc qu'un adolescent délinquant est un adolescent qui est encore totalement dans la société, qui est encore totalement dans les normes de la société, mais que c'est certaines normes, tout simplement, qu'il peut transgresser, qu'il reste donc dans un vrai mouvement, qui a une histoire de la délinquance individuelle, qui est donc aussi une histoire qu'on peut remonter, qu'on peut changer. Donc je cite Metza. En somme, nous défendons l'idée selon laquelle le délinquant n'est pas un étranger à la société dans laquelle il vit, mais qu'il en est le reflet dérangeant, une caricature. Le délinquant reprend et privilégie une partie du système de valeurs dominant, notamment ces valeurs souterraines qui coexistent avec celles publiquement affichées qui ont une allure plus respectable. C'est une thèse qui a été défendue naïvement, mais qui reste certainement intéressante, à la grande époque du discours sur les gagnants. Vous êtes un jeune, vous vous rappelez, de la grande époque d'Appie, avant qu'il soit acteur, et après qu'il soit chanteur. Je ne sais pas, il a dit, c'était vraiment très bon. Il y avait un discours donc qui était très, très dominant dans toutes les classes de la société et dans tous les partis politiques, en l'occurrence le Parti Socialiste du Pouvoir, qui avait décidé que le modèle c'était le gagnant. Et ça a été d'ailleurs à l'époque très porté par des gens comme Fabius, par Mitterrand lui-même et par Tapie qui a été le modèle à l'époque, et donc arrivé jusqu'à ministre de la ville, ce qui est quand même un parcours assez commun. C'était aussi la tentative de réconciliation du chef d'entreprise avec la culture de gauche. C'était le discours qui était très dominant à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un discours pour les forts, un discours très méritocratique, etc. Donc, si on affichait la détermination individuelle, la force de la volonté, etc., c'était aussi clairement et souterrainement, ce n'est pas jamais comme ça, la loi du plus fort. C'est l'époque quand même de se rappeler que ce monsieur qui était donc mis en valeur par un parti socialiste au pouvoir industriel. C'est sympathique de voir le personnage qui est flamboyant. Et c'était quand même celui qu'on disait. Donc, il allait à Montfermeil faire un petit happening, donc il était du féminisme dans la ville. J'étais allé sur le petit gars, vous pouvez tout faire, je suis dans la volonté, etc. On opposait à modèle clairement de loi du plus fort. Bon. Si bien que quand on parle maintenant de loi du plus fort par rapport à la délinquance en banlieue, il faut se rappeler d'où elle vient. C'est pas forcément une sous-culture délinquante fabriquée dans les banlieues. C'est aussi quelque chose qu'on peut peut-être considérer avec l'analyse de Balza comme donc ce qu'il existe, une de ces valeurs souterraines qui coexistent avec celles publiquement affichées qui ont une allure plus respectable. Ce qui permet aussi peut-être, hein, vous comprenez à quel point ce que je dis, même si j'essaie de présenter de la pensée des autres, hein, rejaillit sur l'analyse de ce qui se passe actuellement. Bon, est-ce que c'est donc cette violence ou cette délinquance qui surgit est d'une étrangeté. Est-ce que c'est une violence qui vient d'ailleurs? Bon. Comme, bien entendu, vont être, comment dirais-je, associés constamment le thème délinquance-immigration. Bon. On peut dire, c'est plus facile pour une société de dire qu'elle vient d'ailleurs, la violence des immigrés. Or, si elle est au cœur du système de valeurs sur le terrain même de la société, c'est plus du tout la même analyse. Donc ça remet quand même en question, en partie, les modèles de la culture anti-institutionnelle ou anti-scolaire. Développé, bon, je vais parler d'Arjouet, on pourrait parler d'autres personnes, y compris d'ailleurs de moi-même, qui oblige au moins à mieux comprendre comment se développe une culture antiscolaire chez certains individus et pas chez d'autres, par exemple. Si on va, comment dirais-je, si on use des théories culturalistes d'une manière naïve, où la délinquance serait une culture, même si on l'appelle sous-culture, avec tout le caractère méprisant du coup que ça pourrait avoir, le terme sous-culture qui m'a toujours gêné, et qu'on l'applique pour expliquer le taux élevé de délinquance dans les milieux populaires, particulièrement dans les milieux issus de l'immigration, on risque, avec cette théorie, d'aller vers une naturalisation, une ethnicisation de la violence et de la délinquance extrêmement dangereuse. C'est-à-dire, bon, l'idée naïve serait que ces enfants, ces élèves de milieux populaires baignent dans un bain de violence tous les jours, dans la famille, dans l'environnement, adhéreraient à des valeurs qui justifieraient le retour à la violence et à la délinquance. Le fond de la critique, un peu plus compliqué. Le fond de la critique, c'est que ça repose du coup sur une idée d'une culture populaire violente qui serait une culture autonome en soi . Or, ça n'est pas si simple. Il n'y a pas une culture populaire totalement autonome qui échappe à la culture globale. Il y a des interactions entre les différents modes de culture. Par exemple, vous avez peut-être lu, pour ceux qui travaillent sur les familles, par exemple, en particulier, c'est peut-être souvent une graphie, un ouvrage de Daniel Littin, qui s'intitule « Quartier populaire, appeler les familles et l'école ». Hein, très bel ouvrage. Pour ceux qui veulent faire une méthodologie par entretien dans leur SER, Daniel Littin. Quartier populaire, les familles et l'école. Un livre qui vient d'être réédité, qui était 97 au départ, 96, et probablement un des meilleurs livres sur le rapport famille-école dans le quartier populaire qui existe d'un point de vue plus ethnographique en France. Et surtout, alors je conseille, du coup, si vous voulez, à tous ceux qui vont faire leur TER sur les entretiens, la méthodologie d'entretien. Les 52 premières pages de ce livre sont consacrées à ce que sont des entretiens de recherche, à la manière dont on se présente sur le terrain, par exemple, et à une l'épistémologie de l'entretien qui est extraordinairement bien. C'est vraiment remarquable. Donc là-dessus, même si le sujet ne vous intéresse pas, lisez les premières pages, quelques 50 premières pages, sur la méthodologie de l'entretien. C'est fantastique. Par contre, qui travaille sur la relation dans les familles populaires. Alors, pour dire les choses telles qu'il est, Daniel Tain est un sociologue qui maintenant est à Lyon, qui a passé sa thèse de doctorat avec toutes ses études en étant ouvrier à la chaîne. Lui-même issu des Lyons. Donc c'est pas le grand pouvoir qui va remporter un discours sur les lieux populaires. Mais il n'empêche qu'il analyse par exemple la place des châtiments corporels dans les familles populaires. Donc, où ils sont forts et par exemple il a montré la présence encore assez forte du martinet. Bon, c'est vrai que si vous m'avalez dans certains quartiers parisiens, je peux vous indiquer si vous avez des pulsions de syndrome leucistes, des endroits où sans que ce soit un sex shop, vous pouvez trouver des martinets. C'est les destinations des enfants, de certains. Mais ce qu'il conclut, c'est que la culture populaire, c'est une culture qui repose sur la force, parce que les gens des milieux populaires n'ont qu'une chose à vendre, c'est leur physique, leur force de travail, et que donc, c'était au moins vrai du temps de la révolution industrielle et de l'industrie. Cette violence n'est en fait qu'une valeur populaire parce qu'on n'a que ça à vendre, c'est notre force. C'est la thèse de Tain. Sauf que, si vous travaillez au milieu populaire, vous vous rendez compte que dans bien les milieux populaires, il y a un refus total du châtiment corporel aussi. Ce n'est pas une valeur aussi massive. Et si vous étudiez un petit peu la littérature, même de romans du 19e siècle, les biographies d'un certain nombre de poètes, par exemple, vous vous rendez compte que dans les milieux très privilégiés, très très privilégiés, le châtiment corporel était très utile, très utilisé. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple. En fait, peut-être réconcilier les points de vue avec un auteur qui s'appelle Augien. Pour Augien, il y a effectivement à maintenir dans l'étude de la délinquance les distinctions d'appartenance sociale. Effectivement, les formes et les expressions de cette délinquance ou de cette déviance sont différentes suivant les univers sociaux. mais parce que les occasions délinquantes ne sont pas de même nature. Ça va assez bien avec une recherche qui a été faite par un auteur français connu, qui est Sébastien Rocher, avec lequel j'ai des débats depuis très longtemps sur l'importance justement des appartenances sociales, lui il est lié au départ. La recherche qu'il a faite, qui est l'équivalent de la recherche à laquelle ça va. Questionnaire de délinquance auto-révélée. On pose aux élèves, en l'occurrence, des questions sur ce qu'ils ont eux-mêmes commis comme acte déviant ou délinquant. Rocher avait toujours tendance à dire non, ça n'est pas vrai, la partition sociale, c'est ridicule, la délinquance est aussi forte dans les milieux populaires ou dans les milieux privilégiés. Bon. Avec une tendance, donc, du coup, lui, à avoir une analyse très goudonienne disant. Donc c'est de la faute des individus, donc il faut traiter que les individus, ce n'est pas un problème social. Bon. On voit qu'idéologiquement, il faut être assez proche de l'histoire en place. Bon, le problème de Rocher, c'est que ses propres recherches ont montré quelque chose qui est intéressant, c'est que la délinquance violente est effectivement plus importante dans ces formes. Les quartiers populaires, ce qui ne veut pas dire encore une fois que tous les quartiers populaires, que tous les élèves, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une expression différente de la délinquance, mais que par contre, par exemple, tout ce qui est la déviance en termes de consommation de drogue particulièrement dure, plus importante dans les milieux tout simplement parce qu'il y a plus d'argent. Je ne parle pas ici simplement du hachis. Hein. Donc, en conclusion de cette vision un petit peu sur le culturalisme, on peut sans doute accepter un grand nombre d'analyses des culturalistes à condition de ne pas considérer la culture d'une manière figée. Mais bien comme quelque chose qui se construit dans un jeu d'interaction entre les classes sociales et les individus. Si j'étais plus brutal, je dirais, faisons très attention à ce qu'on ne confonde pas culture et nature. Et quand on dit de quelqu'un, il est culture judéo-chrétienne. On réifie complètement. Et on réifie en même temps la culture judéo-chrétienne. Comme si ce n'était pas quelque chose de complètement évolutif. Mais on désigne comme ça, par un terme, qui fait un terme qui est figé dans son avis.
C'est un jeu d'interaction entre classes sociales.
D'où la transition extrêmement habile que nous allons faire maintenant avec les théories de l'interactionnisme et de la désignation. On va passer ici à interactionnisme et désignation. On va passer ici à théorie donc, de ce qu'on a coutume d'appeler la seconde école de Chicago. qui est une école donc, qui succède après la Seconde Guerre mondiale donc à la première génération, dont j'avais pas mal parlé au début. Et qui vont livrer un nombre d'études ethnographiques considérables. Dont beaucoup vont être consacrés à l'étude de la déviance sous différentes formes. Bon, je vais en parler tout de suite, mais pour mettre un peu un nom dessus, bon, vous avez peut-être étudié, au moins entendu parler d'un des plus célèbres ouvrages de Baker, qui est Outsiders, évidemment, de la manière dont vous avez étudié. L'implantation et l'usage des stupéfiants chez les musiciens de jazz. C'est des ouvrages clés. Et on va aussi avoir notre grand récit, l'ouvrage de Hoffman, bien sûr, dans Stigmate, qui va montrer comment le handicap est en fait à des usages sociaux. C'est-à-dire comment on n'est pas simplement handicapé, point. Handicapé en interaction symbolique avec une autre société. Je vous donne un exemple, c'est tout simplement pour expliquer ce que c'est que l'interactionnisme symbolique, parce que c'est vrai que c'est un terme qui paraît quelquefois un peu barbare. Bon, beaucoup d'entre vous doivent le connaître déjà, je reparle un peu. Un exemple de vie. Dans mon village, je vis dans les Pyrénées, il y a un monsieur qui a 80 ans à peu près, qui est sur un fauteuil roulant parce qu'il n'a plus de jambes. Il a perdu deux jambes. C'est une chose terrible dans la vie d'un homme qui, donc, à 55 ans, je crois, a perdu donc ses deux jambes. Donc, ouais, pour ça, c'est un handicapé qui manque de jambes et qui est sur un fauteuil roulant. Sauf que s'est construit une individualité. Il a eu des bénéfices secondaires. C'est triste d'avoir des bénéfices secondaires sur ça, il préférait ne pas les avoir, j'en suis certain, mais en même temps, bon, il faut continuer à aller. Et ces bénéfices secondaires sont très simples. Dans le village, il y a juste un endroit où on peut faire demi-tour. On est obligé d'y passer parce que c'est un cul-de-sac. Donc lui, il se met au milieu. Si bien que les voitures sont obligées de faire machine arrière, c'est très compliqué parce que c'est un peu étroit, on tient quel bon endroit ou pas, mais personne ne va lui demander de quitter le milieu. Si bien qu'évidemment, tout le monde lui serre la main, bonjour, il fait beau, il fait pas beau, etc. etc. Bon. Ce type, donc, il a un handicap avec bénéfice secondaire. Il n'est pas simplement handicapé, il est le handicapé de la place du village. Et il y a des tas d'exemples qui sont donnés dans le bouquin de Hoffman et Stigmate, qui est donc vraiment intéressant. Donc, il ne s'agit pas de chercher. Il ne s'agit pas de chercher les raisons des comportements uniquement dans les caractéristiques propres des individus, là le fait qu'il n'y ait pas de jambes par exemple, ou de leur milieu, ou de leur condition de vie. Mais il s'agit bien de s'intéresser à l'ensemble des relations sociales qui vont concourir à la fabrication de la déviance. Je pense à l'interaction donc appliquée à la sociologie de la déviance. Très simplement, il ne suffit pas qu'un individu commette un acte de déviance pour qu'il soit un déviant. Pour cette école de pensée, il faut qu'il soit désigné comme déviant et désigné comme délinquant. C'est-à-dire que pour devenir un délinquant, pour cette école de pensée, il faut un processus de désignation qui va transformer son acte en une infraction. Et la personne en contrevenant. Ce que je viens de vous présenter, c'est donc le socle même de l'approche interactionniste. On va étudier en détail dans la proposition. Donc cette idée de on n'est pas délinquant, on n'est pas délinquant. C'est pas on ne l'est pas, c'est qu'on est au sens du verbe être. C'est vraiment on le devient d'une part, on le verbe être, et on le devient parce qu'on est désigné comme tel. Bien sûr, là on va parler des théories, on appelle de l'anonyme, de l'étiquetage, de la désignation, etc., et ses conséquences. Mais appliquer